Bonjour à chacune et bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier de venir à l'église avec un masque, etc., etc. Mais comme je l'ai entendu dans une louange et c'était dans mon cœur, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu casse-pied, peut-être un petit peu énervant de devoir s'inscrire et de ceci, de cela. Mais il y a des pays dans le monde, à l'heure où on parle, où masque ou pas masque, inscription ou pas inscription, vous n'avez pas le droit d'aller à l'église. Il y a des pays dans lesquels les églises sont brûlées, les chrétiens sont torturés, dans lesquels on interdit de lire la Bible, dans lesquels on interdit d'invoquer le nom de Jésus. Alors, j'essaye simplement de nous encourager, nous les Français, qui aimons bien râler parfois, mettons les choses en perspective. Nous avons la chance d'être dans un pays où nous sommes encore libres d'aller à l'église, même si on nous demande de nous inscrire. Nous avons encore accès à Internet, nous avons accès à des dizaines, des centaines, voire des milliers de sites Internet, des prédications, des enseignements. On a la Bible dans toutes les versions et toutes les langues. Alors prenons la mesure des choses. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu casse-pied des fois, mais voilà, sachant relativiser un petit peu les choses. Je vous transmets les salutations de l'église, effectivement l'église du Havre, ainsi que du pasteur Gilbert Ouedraogo, qui est notre pasteur principal, ainsi que tous les membres de l'église. C'est une joie pour moi et pour mon épouse de pouvoir être avec vous. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'ici, je suis né ici, je suis né à Istres quand il y avait encore une maternité à la clinique. Donc je suis un enfant du pays, puis ensuite j'ai donné mon cœur au Seigneur à l'âge de 19 ans. 20 ans en Angleterre, puis je suis revenu en France, je suis ensuite parti aux États-Unis pendant 3 ans faire une école biblique. C'est là-bas que le Seigneur m'a mis à cœur d'être et de devenir pasteur. Puis je suis revenu en France à nouveau et je sers le Seigneur. Donc j'ai commencé dans cette église, puis j'ai été à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. C'est là où j'ai rencontré mon épouse, Stéphana. Et ensuite, depuis 2 ans maintenant, 2 ans au mois d'août, nous sommes à l'église du Havre. Avant de prendre le message que j'ai sur le cœur, j'aimerais prendre un cantique, le DPS 71. Alors j'aimerais juste la première note. Je crois que c'est un ré, si au piano on pouvait juste me donner la première note. Non, c'est un si bémol. Alors pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le chanter avec moi. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite simplement à fermer les yeux. Le cantique est inspiré du psaume 108, versets 4 à 6. Le psaume 108, c'est le DPS 76. C'est le cantique « je t'exalterai, Seigneur ». Donc si je pouvais juste avoir la première note. Cantique qui dit « Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. » Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Comme ça, si vous le connaissez par cœur, tant mieux, vous pouvez le chanter. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, fermons les yeux et « Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons accueillir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Je t'exalterai, Seigneur. » Parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des Que ta gloire remplisse l'univers. Encore une fois. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, oh, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que ta gloire remplisse l'univers, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse nos cœurs, que ta gloire remplisse ce message que tu m'as donné, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions tous et toutes sortir d'ici avec quelque chose de toi, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, nous t'avons invité, Saint-Esprit, nous t'avons invoqué, Saint-Esprit, nous t'avons prié, Saint-Esprit, nous te demandons d'agir au travers de ta parole, la parole de Dieu et non la parole d'un homme, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai donné un titre au message de ce matin, et le titre est le suivant. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Je voulais l'intituler « Bas les masques », mais au vu de la situation actuelle, je me suis dit non, parce que si jamais quelqu'un enlève le masque, ça va me retomber dessus, donc non, gardez les masques. Mais dépouillez-vous, vous savez ce que ça veut dire ? Se dépouiller, c'est enlever tout ce qu'on a sur soi, c'est se mettre à nu. Je vais parler du livre de la Genèse et j'aimerais donner le contexte, bien évidemment, dans le chapitre 1er, le chapitre 2 du livre de la Genèse, nous voyons comment est-ce que le monde, l'univers, l'infiniment grand a été créé. Mais nous voyons aussi comment l'infiniment petit a été créé, c'est-à-dire les plantes, l'herbe, l'eau, les animaux, les insectes. Et le clou, j'ai envie de dire, le clou du spectacle, la plus belle des créatures, le summum de la création, c'est l'homme et la femme. Et le livre de la Genèse, au chapitre 1er, nous montre, si on regarde les termes hébreux, on voit que Dieu a formé, a façonné. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est façonné. Pour la lumière, pour le monde, la terre, la planète, certainement que sa voix a suffi. Mais en ce qui concerne l'homme, il nous est dit qu'il a été façonné. Et je ne peux m'empêcher d'imaginer Dieu se mettre à genoux, prendre de la terre, prendre de la poussière, de la glaise, de l'argile, et façonner Adam. Mais lorsqu'il a eu fini de façonner Adam, c'était un corps, tout simplement, avec certes la chair, avec les tendons, avec les muscles, etc. Mais il était toujours inerte. Et il nous est dit que Dieu a soufflé dans les narines de Adam, qui fait que Adam, puis ensuite Ève, l'homme et la femme ne sont pas comme les plantes, ne sont pas comme les arbres, nous ne sommes pas comme le soleil ou comme les rivières. Nous sommes les récipients du souffle de Dieu, le souffle divin de Dieu. Il y a quelque chose qui fait que l'homme et la femme, malgré ce que l'on peut essayer de nous faire croire à la télévision, dans les magazines ou à l'école, et certaines théories de l'évolution, on n'a pas évolué, on a été créé. Nous avons été créés, nous avons été façonnés par Dieu, puis nous avons été les récipients de son souffle divin. C'est ce qui fait que nous avons une âme, c'est ce qui fait que nous avons un esprit, c'est ce qui fait que nous pouvons communiquer entre nous, mais nous pouvons également communiquer avec Dieu. Nous avons cette relation qui est possible avec Dieu que les animaux n'ont pas, que la nature n'a pas. Et alors que Adam et Ève étaient dans le jardin, il nous est dit, Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont déjà vu des enfants, jusqu'à un certain âge, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les enfants peuvent être complètement nus et ils s'en fichent. Eux, ça ne leur fait rien, c'est nous qui devons les couvrir, c'est nous qui devons les habiller. Pourquoi ? Parce qu'il y a une innocence. Même si l'homme, la femme, nous naissons pécheurs, il y a quand même pendant les quelques premières années de notre vie une part d'innocence où on ne sait pas forcément discerner le mal du bien jusqu'à un âge qu'on appelle l'âge de raison. Et pendant cet âge où nous sommes très jeunes, il y a des choses que nous faisons sans réaliser, il y a des choses que nous ne faisons pas également sans même le réaliser. Et il y a pendant quelques années cette innocence par rapport à la nudité. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais Adam et Ève étaient, c'est écrit, ils étaient nus. Ils étaient nus, ils n'avaient pas de vêtements, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi est-ce qu'ils n'en avaient point honte ? Parce qu'à ce moment-là, le péché n'était pas encore entré dans le monde. L'homme et la femme étaient encore des êtres parfaits, qui étaient en communion avec Dieu de manière parfaite, donc il n'y avait rien de mal. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu dans un magazine ou sur Internet des fois des illusions d'optique. Il y a des fois une image qu'on en regarde et au plus on la regarde, et il y a comme une autre image qui peut des fois apparaître ou quelque chose qui est caché derrière. Et une fois qu'on a vu le symbole qu'il y a derrière, on ne peut plus revenir en arrière. On n'arrive plus à voir l'image comme on la voyait au début. C'est un petit peu comme cela. Adam et Ève étaient nus, mais parce qu'ils étaient purs, parce qu'ils étaient parfaits dans leur relation l'un avec l'autre et dans leur relation avec Dieu, il n'y avait pas de mal, il n'y avait aucune mauvaise pensée, il n'y avait pas de vice, il n'y avait rien de mal. Donc pour eux, il n'y avait aucun problème. Mais malheureusement, on voit un petit peu plus loin dans Genèse chapitre 3, versets 6 et 7, alors que Dieu avait donné une seule interdiction. Il avait dit à Adam et Ève, vous êtes dans le jardin d'Éden, vous pouvez manger de tous les arbres. Il y avait certainement des poiriers, des pommiers, des cerisiers, des pêchers, des abricotiers, tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger de tous les arbres. Vous pouvez manger certainement aussi de toutes les plantes, puisque Adam et Ève étaient dans le jardin pour le cultiver. Il y avait certainement des courges, il y avait des concombres, il y avait tout cela. Ils pouvaient manger de tout, absolument tout. Ils étaient libres de tout, de profiter, de jouir du jardin. Mais il y a un seul arbre dont Dieu a dit, celui-ci, vous n'y touchez pas. Et parfois, en tant que chrétien, les gens voient la religion et voient le fait d'être chrétien comme « Ah, ben, tout m'est interdit, je ne peux rien faire ». Mais non, tu peux tout faire. Mais il y a juste une chose que tu ne peux pas faire, c'est pécher. Et le péché peut prendre plusieurs formes. Et ici, dans le jardin d'Éden, Dieu a autorisé, Dieu a même commandé à Adam et Ève de se régaler, de profiter de tout le jardin, mais il y a juste un arbre dont Dieu leur a défendu de goûter le fruit. Et malheureusement, à travers la tentation du serpent qui s'est présenté à Ève, il nous est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce verset-là de Genèse 1 jusqu'à Genèse 3, l'homme et la femme, Adam et Ève, étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient une communion avec Dieu que personne sur terre n'a pu connaître. Il nous est même dit que Dieu venait se promener le soir dans le jardin pour discuter avec Adam et Ève. Et malheureusement, lorsqu'ils ont pris de ce fruit qui leur était interdit, lorsqu'ils ont succombé à la tentation et lorsqu'ils ont désobéi, c'est pas la tentation qui est mauvaise, mais c'est le fait de succomber à la tentation. Jésus lui-même dans le désert a été tenté. Le diable est venu pour le tenter. Donc être tenté, ce n'est pas un péché, mais c'est d'y succomber qui est un péché. Avoir une mauvaise pensée, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est laisser cette pensée devenir un acte. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la désobéissance. Alors que Ève a été tentée, elle a succombé à cette tentation, elle a pris de ce fruit, elle en a donné à son mari qui, même si ce n'est pas précisé, en tout cas, non, au contraire, parce que ce n'est pas précisé, il n'a pas régimbé, il n'a pas dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il en a pris lui aussi. On suppose que s'il était juste à côté d'elle, il a dû assister à la scène et il ne s'est pas révolté, il ne s'est pas rebellé lui non plus, il en a pris aussi. Donc même si c'est Ève qui a fait le premier pas, Adam a fait le deuxième allègrement. Donc je ne suis pas là pour mettre la faute sur l'un plus que l'autre. Ils ont tous les deux, pris de ce fruit et le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le cœur de l'homme. Et lorsque le péché est entré dans le cœur de l'homme, quelque chose s'est brisé. La communion avec Dieu, l'amour parfait qu'il y avait entre Dieu et sa créature et sa création Adam et Ève a été brisé. Et à cause de cela, des choses qui étaient complètement innocentes, des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé, ont commencé à prendre une autre tournure. Et la première chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils étaient nus. Et face à cette nudité, ils ont voulu la couvrir. Pourquoi ? Parce que désormais, leurs yeux n'étaient plus fixés sur Dieu, n'étaient plus fixés sur son amour, n'étaient plus fixés sur leur communion avec Dieu, mais désormais, leurs yeux étaient fixés sur eux. Pour se voir nus, vous êtes d'accord avec moi, il faut baisser les yeux. Si on regarde, on n'en a pas l'impression à cause des vêtements, mais pour voir qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'au lieu d'avoir levé les yeux vers Dieu, de regarder à lui, de regarder à sa création, à sa gloire, ils ont baissé les yeux. Et c'est ce que le péché fait. Le péché vient et il te pousse à regarder à toi. Et c'est un verset suivant, c'est dans Jérémie 17, verset 9, nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» À cause du péché, le péché est venu prendre le cœur de l'homme, le cœur de la femme, est venu le tordre, est venu le salir. Ce qui fait que désormais, tout ce qui peut sortir du cœur de l'homme, c'est mauvais. C'est méchant. C'est pas joli. Et alors que jusqu'à présent, ils n'avaient connu avec Dieu que la joie, que l'amour, que la bonté, que la beauté, il nous est dit dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Une autre version dit, l'amour parfait bannit la peur, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Jusqu'à présent, Adam et Ève n'avaient absolument rien à craindre, puisqu'ils étaient en union et en communion avec Dieu. Mais parce qu'ils ont laissé le péché rentrer dans leur cœur, parce que le péché est venu vicier, est venu être là comme une tare, est venu tacher, est venu salir leur cœur, alors ils ont découvert qu'ils étaient nus, et il nous est dit que lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur et ils se sont cachés. Parce que désormais, ils savaient qu'ils avaient fait une bêtise, mais plus qu'une bêtise, ils savaient que désormais, ils étaient séparés. Parce que l'amour parfait n'était plus dans leur cœur, alors ils ont commencé à avoir peur de Dieu, avoir la trouille, la frousse. Je ne parle pas d'une peur, une sainte révérence, comme on est appelé à avoir une sainte crainte de Dieu. Non, mais là, ils ont vraiment eu la trouille, la preuve. Ils se sont cachés parce qu'ils ne voulaient pas être face à Dieu tellement ils avaient peur de la conséquence de ce qu'ils avaient fait. Il nous est dit que Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier et ils s'en sont fait des ceintures. Le figuier, dans la Bible, c'est un arbre qu'on connaît bien ici dans notre région et c'est symbolique des œuvres de la chair, c'est-à-dire les choses que l'homme, que la femme peuvent faire, les actions qu'ils peuvent faire, mais aussi ce qui provient du cœur humain, c'est-à-dire ce qu'on peut essayer de faire pour se donner une bonne image, ce qu'on peut essayer de faire pour se donner une bonne conscience. Et c'est exactement ce que l'on voit là, puisqu'ils prennent les feuilles de figuier et ils vont venir cacher leur nudité. Le mot qui est utilisé pour ceinture, c'est un petit peu ce qu'il y a dans certains endroits du monde où il fait très chaud. Vous connaissez les pagnes. Les pagnes. Donc c'est le mot qui est utilisé. Une ceinture, un pagne, c'est-à-dire ça faisait juste pour cacher la nudité d'Adam et de Ève. C'était pas bien gros, c'était pas bien épais. Le mot qui est utilisé dans d'autres endroits de la Bible, c'est vraiment la ceinture. Donc c'est vraiment pour cacher le minimum. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas bien coudre ou est-ce que parce que les feuilles de figuier étaient petites, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont à peine eu le temps. Ils ont à peine eu l'opportunité de couvrir juste un petit peu leur nudité. Et en prenant les feuilles de figuier, nous maintenant, plus de 6000 ans après, cela nous parle. Ça nous parle que lorsqu'on est un homme et une femme et qu'on se trouve face à Dieu, on réalise que l'on est nu. On réalise qu'on est pécheur et la honte vient. Et c'est pour ça qu'on veut essayer de cacher un petit peu, on va appeler ça un cache-misère, on va essayer de cacher un petit peu notre identité profonde, on va essayer de se cacher, on va essayer de se dissimuler. Et c'est pas pour rien qu'il y a des expressions qui utilisent ce mot nu, se mettre à nu face à quelqu'un, ça veut dire se dévoiler, ça veut dire toute la vérité. Il y a des fois où on entend l'expression « je me suis senti comme tout nu », c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui pouvait venir me cacher, il n'y a plus rien derrière, aucune chose derrière laquelle je pouvais venir me cacher. Se sentir tout nu, c'est être vulnérable, c'est être sans faux semblant, sans prétention. Et l'expression que je voulais utiliser, c'est « bas les masques ». Enlever le masque, enlever le costume, enlever le déguisement de façon à voir la vraie personne. Et alors que Adam et Ève se sont retrouvés nus, ils ont donc essayé de cacher leur nudité. Et cette ceinture, dans la définition du mot hébreu, c'était une ceinture qui devait recouvrir le devant, mais aussi qui devait recouvrir les reins. Et tout le monde sait que l'expression, la force est dans les reins. Les reins représentent la force d'un homme, la force d'une femme. Et désormais, leur force, la force d'Adam, la force d'Ève n'était plus en Dieu. Ce n'est plus Dieu qui agissait pour eux. Avant, ils étaient dépendants de Dieu, mais à cause du péché, ils sont devenus indépendants de Dieu. Et désormais, c'était ce que eux pouvaient faire, ce que eux pouvaient manigancer, ce que eux pouvaient essayer d'achever avec leurs propres moyens. Et cette ceinture était sur le devant, était sur l'arrière pour recouvrir les reins, pour nous donner l'image qu'ils ont essayé par leur propre force. Les feuilles de figuier, ils ont dû voir un figuier, ils ont dû y aller, prendre une, deux, trois, quatre, je ne sais pas, peut-être 10, 20, ils ont dû arracher les feuilles, ils ont ensuite dû les coudre les unes après les autres, et c'est vraiment une machination, une œuvre humaine. La couture, c'est pas rien. Coudre des feuilles, il faut le faire quand même. Moi, quand j'étais petit, une fois en colo, on nous avait demandé de faire une couronne avec des fleurs, j'ai vraiment galéré, mais là, faire carrément toute une ceinture, un pagne, pour pouvoir couvrir toute la nudité, il devait être assez doué. En se saignant de ces ceintures, ils se sont protégés, ils ont essayé de cacher leur nudité, mais ils n'étaient pas protégés face à Dieu. Parce qu'il nous est dit, Genèse 3, verset 21, alors que Dieu s'est présenté à Adam et Ève, il nous est dit, l'Éternel Dieu, pardon, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Le mot qui est utilisé pour peau, ici, c'est le même mot qu'on utilise pour le cuir. Le cuir, c'est fait à base de peau d'animal. Ce qui veut dire que, alors que Adam et Ève ont essayé par leurs propres moyens, en prenant quelques feuilles d'un arbre, d'essayer de cacher leur nudité, Dieu, en voyant cela, n'a pas pu accepter, n'a pas pu tolérer que ce soit quelque chose que eux, ils aient fait. Et dans le jardin d'Éden, symboliquement, nous avons déjà, dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, dès le début de la Bible, nous avons déjà l'image d'un sacrifice. Un animal, on ne sait pas lequel, un animal a dû être sacrifié, a dû être tué, sa peau a dû lui être enlevée pour pouvoir venir recouvrir Adam et Ève. Et pour nous qui avons la totalité de la Bible, ça nous rappelle le sacrifice d'un autre animal, un sacrifice de l'agneau, mais pas un animal terrestre, l'agneau de Dieu. Jésus lui-même a dû se sacrifier. Je vais venir un petit peu plus loin. Et alors que Adam et Ève n'ont eu que le temps ou que l'idée de se faire simplement des ceintures, il nous est dit que Dieu a fait à Adam et Ève pas des ceintures, pas un petit cache-misère, pas un petit pagne, pas un petit pareo, mais il nous est dit il leur a fait des habits. Le mot hébreu utilisé pour habit, il est aussi utilisé pour vêtements, pour tunique, pour une robe, et pour un manteau. C'est-à-dire que, alors qu'Adam et Ève n'avaient la possibilité que de couvrir un tout petit peu leur corps, Dieu leur a fourni un sacrifice qui allait recouvrir tout leur corps, comme un manteau que l'on met. C'est le même mot qui est utilisé pour la tunique de Joseph, le manteau royal, quelque chose de bien, bien épais, quelque chose qui va du haut du corps jusqu'en bas. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu veut nous justifier, il ne nous justifie pas un tout petit peu. Dieu ne nous aime pas un tout petit peu. Lorsque Dieu nous recouvre de son amour, il ne veut pas nous recouvrir un tout petit peu de son amour. Il veut nous revêtir de son amour. Il veut que ce soit comme un manteau de joie, un manteau de bénédiction qu'il veut déposer sur nos épaules de façon à ce que ça aille du haut du corps jusqu'en bas du corps. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il nous est dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Dans l'Ancien Testament, on connaît ce verset qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». De nos jours, on dit « qui casse, paye ». Si tu casses un objet à 10 euros, tu dois donner 10 euros. Si tu casses un objet à 1000 euros, tu dois donner 1000 euros. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas estimer avec une valeur d'argent, une vie. Que vaut une vie ? C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, tout un système de sacrifice animal a été mis en place pour que des animaux purs, des animaux sans défaut, que ce soit des agneaux, que ce soit des béliers, des animaux qui représentaient la pureté, puissent être donnés en échange d'un pardon temporaire. De façon à ce qu'un homme, une femme, puisse être réconcilié temporairement avec Dieu. Adam et Ève ont ensuite été chassés du jardin d'Éden, mais ils ont gardé, ils ont conservé ces peaux comme leurs premiers habits. Et on pourrait se dire, mais c'est bien beau cette histoire, c'est bien, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça vaut pour moi en 2020 ? Est-ce qu'il faut que j'aille dans le pré du coin, que j'aille contacter le berger, que j'aille scalper moi-même un animal ? Non, c'est pas ce que je veux. Alors que dans le jardin d'Éden, Dieu a déjà démontré symboliquement ce qu'il allait faire avec son fils des milliers d'années plus tard, j'aimerais nous demander, nous encourager, et peut-être demander à quelqu'un en particulier, que ce soit ici ou sur Internet, à faire comme Adam et Ève. Il y a un proverbe qui dit « tel père, tel fils, telle mère, telle fille ». Vous avez certainement sur vous des traits caractéristiques physiques. Vous avez peut-être les yeux de votre maman, vous avez peut-être le nez de votre papa, vous avez peut-être l'absence de cheveux de votre papa ou je ne sais quoi. Il y a des choses qu'on se transmet comme ça de génération en génération. Des fois la couleur des yeux, des fois la forme des pieds, je ne sais pas, la taille. Mais il y a quelque chose qu'on nous transmet, qui nous a été transmis depuis Adam et Ève. C'est cette nature pécheresse. C'est-à-dire que vous soyez grand ou petit, riche ou pas riche, que vous ayez les yeux bleus, verts ou marrons, nous naissons tous, comme je le disais tout à l'heure, nous naissons tous avec un cœur tortueux par-dessus tout. C'est l'héritage que nous avons de nos premiers parents. Et lorsqu'on s'en rend compte, on peut avoir, et on a même ce réflexe, lorsqu'on commence à se rapprocher de Dieu ou même lorsqu'on veut essayer de se réconcilier avec le divin, on a cette tentation de faire comme Adam et Ève et de se coudre quelque chose, de prendre des feuilles de figue et de prendre des bonnes œuvres. Et je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais il y a des religions, une religion que l'on connaît bien en France, où si on achète une bougie ou si l'on paye une certaine somme d'argent, ben, ça peut nous rapprocher de Dieu. Si l'on fait faire des prières, si l'on va à un certain endroit, si on prie une certaines statues, si on a autour du cou un certain symbole, eh bien ça peut nous faire nous rapprocher de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire, je le dis très respectueusement, mais très bibliquement, toutes ces choses, ce sont comme des feuilles de figuier. Ce sont des œuvres humaines. Ça ne fait rien. Que tu donnes un euro ou un milliard d'euros, ce n'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu. Que tu fasses un pas en direction d'une ville ou que tu ailles te prosterner devant une statue, ce n'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu. Que tu ailles dans une certaine église, que tu touches les pieds, que tu pries un certain vitrail ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu. Parce que tout ça, ce sont des choses humaines. Tout ça, ce sont des choses que, oui, tu peux peut-être essayer de faire, mais ce sont toutes des feuilles de figuier que tu vas coudre les unes après les autres et ça va recouvrir quoi ? À peine la largeur d'une ceinture. C'est pour cela que quand on vient devant Dieu, la Bible nous le dit, lorsqu'on vient devant Dieu, il faut venir comme tout nu. Pas physiquement, mais spirituellement, psychologiquement, symboliquement, venir complètement dépouillé. C'est-à-dire ne pas venir devant Dieu en disant « je viens de telle famille » ou « je viens de tel pays » ou « je viens de telle tradition » ou « j'ai un portefeuille épais comme ça » ou « moi j'ai fait tant de bonnes œuvres, moi j'ai travaillé dans une association humanitaire pendant tant d'années, moi j'ai aidé tant de personnes ». Moi, sur mon frigo, j'ai la photo d'un petit garçon que l'on aide à hauteur de quelques euros par mois. Et ça, c'est des choses qui peuvent... Non, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est des feuilles de figuier et ça couvre à peine ta nudité. Lorsqu'on vient devant Dieu, il ne nous est pas précisé la discussion qu'il y a eu, mais lorsque Adam et Ève se sont présentés devant Dieu avec ces feuilles de figuier, Dieu n'a pas accepté, n'a pas voulu qu'ils repartent avec ces feuilles de figuier. Ils ont dû les enlever. Il y a un moment, quand on s'habille, qu'on se déshabille pour pouvoir passer un autre vêtement, il faut se retrouver nu. Et lorsqu'ils se sont enfin dépouillés de cette ceinture, qu'ils se sont dépouillés de ce pagne, alors à ce moment-là, Dieu a pu leur donner des habits de peau. Et à ce moment-là, ils ont pu s'en revêtir complètement. Et alors à ce moment-là, parce qu'un sacrifice avait été fait, parce qu'un animal innocent avait donné sa vie à la place de la leur, alors c'était un sacrifice acceptable aux yeux de Dieu. Et alors que dans l'Ancien Testament, un sacrifice animal avait une valeur temporelle, alors il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son propre fils, Jésus, que l'on appelle l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, lui qui était 100% homme et 100% Dieu, lui qui a été tenté mais qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, lui a donné sa vie, lui a laissé son sang couler à la croix, de façon à ce que, comme on avait l'habitude de le faire avec les animaux, mais que ça ne dure que quelques instants, quelques heures, quelques jours, ce pardon, ce sacrifice, ce sang versé à la croix puisse venir nous recouvrir complètement, nous recouvrir éternellement, nous recouvrir une bonne fois pour toutes. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui peut-être a essayé, par ses propres forces, par sa propre intelligence, par sa propre peut-être étude de la Bible, par ses propres actions, qui a essayé de se rapprocher de Dieu, qui a essayé de se présenter à Dieu, mais avec comme un masque ou avec un déguisement ou au moins une ceinture, quelque chose qui venait comme pour essayer de dire « bon, je ne vais pas me présenter tel quel parce que je sais que je ne suis pas une bonne personne ». Mais avec tout ce que j'ai fait pour les autres, avec tout ce que j'ai fait pour telle association, avec tout ce que j'ai fait pour telle religion, avec toutes les prières que j'ai faites monter, avec toutes les prières que j'ai récitées, tous les chants que je connais par cœur, ça va me donner une certaine prestance, ça va me donner un certain crédit aux yeux de Dieu. Non. Il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu le mettes de côté, que tu te présentes à Dieu tel que tu es. Pourquoi ? Parce que de toute façon, Dieu te connaît. Dieu te connaît mieux que tes parents, Dieu te connaît mieux que ton épouse ou que ton conjoint, Dieu te connaît mieux que toi-même. Psaume 139, versets 1 à 4 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Venir devant Dieu avec un masque, venir à Dieu devant Dieu avec un pagne, avec une ceinture, c'est inutile. Ça ne sert à rien parce que lui, il voit au travers de tout cela. Il connaît nos cœurs, il sonde nos pensées. Alors j'aimerais nous encourager à nous débarrasser, à nous dépouiller, mettre par terre, mettre de côté toute cette mentalité. Mais il y en a peut-être aussi qui essayent de venir devant Dieu pour essayer de cacher leur nature. Dans le sens que Hébreux 4, 13 nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il y en a peut-être parmi nous qui ont de mauvaises habitudes, qui ont un mauvais caractère, qui ont tendance à pécher dans un certain domaine. Et lorsqu'on est confronté à soi-même, qu'on est confronté à la réalité du péché, cette désobéissance que l'on a l'habitude de faire, alors à ce moment-là, on est peut-être aussi tenté de se cacher derrière quelque chose, en disant « Ah, mais vous savez, je suis comme ça, c'est mon caractère », ou alors « Ah ben non, c'est à cause de ma famille », ou vous savez, ah ben chez nous, les Espagnols, on est comme ceci, chez nous, les Italiens, on est comme ça, là d'où on vient, les Normands, ah ben les Normands, ils sont d'une certaine façon, en Afrique, ils sont d'une autre façon, c'est pas ma faute, moi j'y peux rien, c'est comme ça. C'est la société qui m'a rendu comme ça, c'est mon passé qui m'a rendu comme ça. Et parfois, on essaye aussi de se justifier, on essaye de dissimuler notre nature pécheresse derrière ce genre de choses, derrière le masque de la religion, derrière le masque de la mentalité, derrière le masque de l'éducation. Ah, vous savez, moi, j'y peux rien, j'ai été éduqué comme ça. Ah ben moi, j'y peux rien, vous savez, moi, j'ai le caractère de mon père, je ne peux rien y faire. Alors certes, toi, tu ne peux rien y faire, mais Dieu peut te changer. Dieu peut changer ton caractère, il peut enlever tes défauts, il peut t'aider à ne plus être aussi colérique, il peut t'aider à résister, que ce soit face à n'importe quelle addiction, il peut t'aider, il peut te donner la victoire sur le péché, mais pour cela, il ne faut pas que tu viennes en disant « Ah ben moi c'est comme ça et puis pas autrement, parce que mon père, parce que ma culture, parce que dans mon passé ». Non, il faut venir en disant « Non, même si ma culture, même si ma tradition, je mets ça de côté, j'enlève cela et je viens tel que je suis ». je me mets à nu devant Dieu en disant, Seigneur, de toute façon, tu me connais. De toute façon, tu connais toutes mes pensées, tu connais toutes mes actions. Alors je te demande de m'aider, je te demande de venir à mon secours. Et c'est quand on se présente sincèrement devant Dieu, sans hypocrisie, sans déguisement, sans costume, sans rien du tout. Alors c'est à ce moment-là que Dieu peut agir dans nos vies. Éphésiens 4, versets 20 à 22 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » C'est-à-dire que le fait de se dépouiller, certes, c'est arrivé à Adam et Ève, mais tout ce que Adam et Ève ont fait, on n'est pas appelé à le refaire. La preuve, c'est eux qui ont péché, et nous, on est appelé à ne plus pécher. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, lui-même, il s'est dépouillé. Comme je l'ai entendu dans une louange ce matin, lui qui était le plus riche, le plus grand, le trésor du ciel, il n'a pas regardé à ce qu'il avait, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié. Il a mis de côté toute sa gloire, toute sa grandeur, il a mis de côté tout l'honneur qu'il avait au ciel pour pouvoir venir sur terre, apparaître comme un simple homme, naître d'une femme dans une étable, puis vivre la vie que nous vivons. Il a subi la faim, il a subi la soif, il a subi la fatigue, il a subi la trahison, il a subi la méchanceté, il a subi les complots, il a subi les mensonges. Philippiens 2, versets 5 à 8 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui à qui toute la gloire appartient et appartiendra au siècle des siècles. Il est venu sur terre se présentant comme un humble serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous sommes appelés à imiter Jésus. Lui qui n'a pas regardé à la gloire qu'il avait, lui qui n'a pas regardé au statut qu'il avait, à la prestance qu'il avait, mais qui a été prêt et qui a mis tout cela de côté pour pouvoir venir sur terre, pour pouvoir nous réconcilier avec lui. La moindre des choses, parce que lui nous a aimés en premier, c'est de l'imiter, de mettre également de côté toutes ses actions, de mettre de côté toutes ses traditions, mettre de côté tous ses faux-semblants, mettre de côté toutes ses excuses. Toutes ces excuses que l'on pourrait invoquer pour essayer de garder un petit quelque chose à nous. Mais non, face à Dieu, tu ne peux pas tenir. Face à Dieu, tu ne tiendras pas. Personne ne peut tenir. Et alors que nous sommes appelés à nous dépouiller, ce n'est pas pour rester tout nu. Adam et Ève ne sont pas restés tout nus. Mais comme je le disais, c'était pour être revêtus. Éphésiens 4, versets 20 à 24, nous dit « Mais vous, donc ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ ?» Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 23, « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Lorsque tu viens devant Dieu, que tu viens sincèrement, que tu viens humblement, sans masque, sans hypocrisie, sans rien du tout, que tu te trouves vraiment comme tout nu devant Dieu, Dieu ne va pas t'humilier. Dieu ne va pas venir mettre son doigt là où ça fait mal en disant « Ah, mais t'es comme ça en fait, ouf, je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour toi. » Dieu ne va pas dire « Oula, non, ouais, non, finalement, remets tes habits parce que c'est trop pour moi. » Non, au contraire. C'est lorsqu'on se présente à Dieu, dépouillé de toute œuvre humaine, qu'à ce moment-là, on peut revêtir Jésus. On peut revêtir les pensées qu'il y avait en Jésus. On peut revêtir les sentiments qu'il y avait en Jésus. Romains 13, verset 14 nous dit « Mais vous, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est-à-dire qu'alors que tu vas te retrouver comme nu devant Dieu, Dieu ne va pas te rejeter, ne va pas t'humilier, ne va pas t'abaisser, mais Dieu va t'habiller. Dieu va te couvrir de façon à ce que ta nudité ne paraisse plus. Mais ce ne sera plus toi, ce sera une nouvelle nature. Ce sera comme de la même manière qu'on met un nouveau manteau, on met une nouvelle tunique. Jésus va venir par son Saint-Esprit, venir te recouvrir, venir t'habiller, te rhabiller, te revêtir complètement. Et si tu le laisses faire, alors tes anciennes façons de penser ne seront plus les nouvelles. Tu vas agir, tu vas réagir, tu vas penser d'une façon nouvelle. Mais ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Jésus. Parce que si tu acceptes d'être revêtu, on a plusieurs expressions dans notre jargon chrétien, on dit « accepter Jésus dans son cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur, bien évidemment, c'est un organe, mais le cœur, c'est là où on a toutes nos émotions, tous nos sentiments. Si on ouvre notre cœur, de la même façon qu'on ouvre notre cœur à notre époux, à notre épouse, à nos parents, à nos enfants, si on ouvre notre cœur à Jésus, Jésus, parce qu'il est vivant, va venir dans ton cœur et il va faire plus que nettoyer la maison un petit peu, mais il va venir mettre des nouveaux meubles, il va venir faire une nouvelle décoration et il va venir te donner ses sentiments. Et alors qu'avant, lorsque tu étais dans une situation peut-être face au péché où tu n'arrivais pas à résister, peut-être que face à un paquet de cigarettes, toi, tu n'as pas la force de ne pas la prendre. Alors que peut-être face à une bouteille d'alcool, tu n'as peut-être pas la force de t'arrêter après un ou deux verres, mais qu'il y a quelque chose en toi, ta nature te pousse à aller jusqu'au bout. Alors que pris sur le fait accompli, ta langue ne peut s'empêcher de mentir. Alors que tu es peut-être tout seul à la maison, ou peut-être que le reste de la famille est couché, tu es sur ton ordinateur, et tes doigts ne peuvent s'empêcher d'aller visiter certains sites qui, tu le sais très bien, ne sont pas bien, ne sont pas beaux, ne sont pas bons pour toi. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, dans ton cœur, si tu le laisses te revêtir de sa nature, alors tu auras une force surnaturelle. Tu auras la force de Dieu. Et de la même façon que dans les évangiles, nous voyons que Jésus a été tenté face au diable, mais qu'il a résisté. Il a résisté pourquoi ? Parce que des versets sont venus inonder son cœur, inonder son esprit, et il a puisé sa force dans la parole de Dieu. Alors ce sera la même chose pour toi. Alors que tu seras face à la tentation, je répète, nous sommes tous et toutes tentés tant que nous serons dans ce corps. Mais le fait d'être tenté n'est pas un péché, c'est le fait d'y succomber, c'est le fait d'y céder qui est le péché. Alors que tu seras face à la tentation, un verset va te venir. Un chant, un cantique, peut-être celui qu'on a chanté ce matin, va te venir. Et quelque chose qui n'est pas de toi, quelque chose qui vient du ciel, va venir dans ton cœur et va te donner la force de résister. Résister à aller sur ce site, et puis tu vas fermer l'ordinateur, et puis tu vas aller lire un livre, ou tu vas simplement aller faire un tour, ou alors tu vas aller te coucher. Alors que ce paquet de cigarettes est devant toi, tu vas avoir la force de refermer le paquet, tu vas même avoir la force de le jeter. De le jeter dans la poubelle, et pas dans la poubelle de la cuisine pour que tu puisses aller le récupérer, mais dans le conteneur du bout de la rue, et ça ne te manquera plus. Cette bouteille d'alcool, tu vas la refermer, et puis c'est libre à toi. Tu attendras simplement qu'il y ait une occasion pour prendre un apéritif avec la famille, mais tu n'auras plus à céder à cette tentation de le prendre que pour toi. Pareil pour le mensonge, pareil pour la colère, tout ce qui est un péché. Alors que tu laisses Jésus te revêtir de sa présence, de sa nature même, alors tu auras de plus en plus ses sentiments, tu auras de plus en plus sa force. Et je répète, cette force ne vient pas de toi, ne vient pas de moi, mais cette force, elle est surnaturelle et elle vient de Dieu. Et j'aimerais terminer peut-être en parlant à des frères et sœurs qui sont chrétiens depuis longtemps, depuis très longtemps même. Alors que tu as laissé Jésus vaincre les tentations pour toi, alors que tu as peut-être une vie avec le Seigneur qui est au beau fixe et qu'il n'y a pas de péché particulier dans ta vie. Alors que je priais hier, j'ai eu cette pensée à cœur. Il y a peut-être dans ta vie d'avant, ta vie avant de connaître le Seigneur, ou peut-être en tant que chrétien, tu as peut-être eu des difficultés, des épreuves. Et peut-être qu'un jour tu as succombé à la tentation, peut-être qu'un jour tu as péché. Depuis tu t'es repenti, depuis tu sais que Dieu t'a pardonné, mais tu as peut-être du mal à te pardonner. Et en ne te pardonnant pas, en disant non, c'est ce que j'ai fait, c'est trop dégoûtant, ce que j'ai fait, c'est trop moche, ce que j'ai fait, c'est trop pas joli, tu t'accroches à cela, à ta propre justice, en disant oui, Dieu m'a pardonné, je sais, mais moi j'y arrive pas, moi je peux pas, non, je ne peux pas me pardonner. Tu es en train de faire comme Adam et Ève, tu es en train de te coudre toi-même une ceinture à base de feuilles de figuier. Et alors que je ne parle pas du salut, Tu es chrétien, tu es sauvé, tu sais que si Jésus revient, tu pars avec lui, mais il y a peut-être des choses que tu as faites, des choses que tu as dites, des choses que tu as subies ou que tu as fait subir, pour lesquelles tu n'arrives pas à te pardonner. J'aimerais t'encourager. Si Dieu t'a pardonné, si tu as demandé pardon à Dieu et que Dieu t'a pardonné, alors tu dois aussi te pardonner à toi-même. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux quelques instants. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces instants. Je te remercie pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Et je crois de tout mon cœur qu'elle fait et qu'elle va faire son effet dans les cœurs. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas encore et qui essayent d'une manière ou d'une autre de se cacher, de se dissimuler devant toi, qui essayent de faire bonne figure, qui essayent de ne pas perdre la face devant toi. Je te prie qu'au travers de ce message, mais aussi au travers de ta présence, au travers de leur communion avec toi, tu puisses leur montrer que devant toi, on doit chaque jour venir dépouiller de nous-mêmes, dépouiller de notre connaissance, dépouiller de notre instruction, de nos œuvres de la chair, et que nous puissions te laisser nous revêtir de ta grâce, nous revêtir de ton esprit. Et Seigneur Jésus, je te prie pour peut-être un frère, une sœur, qui a peut-être fait quelque chose qui est en désaccord avec ta parole, et ils savent qu'ils sont pardonnés, mais je te prie de les aider à se pardonner également, Seigneur. Je te prie de les aider, Seigneur mon Dieu, à croire que désormais, devant toi, Seigneur mon Dieu, ils sont justifiés, que désormais, devant toi, ils sont pardonnés, que devant toi, ils sont complètement réconciliés, Seigneur Jésus. Et quel que soit ce qu'ils ont vécu, quel que soit ce qu'on leur a fait vivre ou ce qu'ils ont fait vivre à d'autres, Seigneur mon Dieu, si toi tu les as pardonnés, alors nous devons nous pardonner. Seigneur Jésus, nous te remercions pour qui tu es, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions d'avoir donné ta vie à la croix pour chacun et chacune d'entre nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, que nous ne laissions rien venir comme obstruer notre relation avec toi. Que lorsqu'on vient à toi dans la prière, il n'y a aucun masque qui vienne, aucun faux semblant, aucun déguisement, Seigneur Jésus. Que pas même notre position et que pas même ma position de pasteur ne puisse venir se mettre en travers de ma relation avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes, pasteur ou pas pasteur. Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes, que je prêche ou que je ne prêche pas, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, donne-nous de réaliser que ton amour pour nous, Seigneur mon Dieu, est inconditionnel. Que tu ne nous aimes pas parce que l'on fait de bonnes œuvres, mais parce que tu nous aimes, alors nous avons envie de faire de bonnes œuvres. Parce que nous savons que nous sommes réconciliés, pardonnés, que nous savons que nous sommes désormais fils et filles de Dieu, alors nous voulons faire du bien autour de nous. Alors nous voulons partager ce message d'amour, de paix et de pardon. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, et qu'à toi seul soit toute la gloire. Amen.